Hier, le Dow Jones a passé les 54 000 points pour la première fois de son existence, mais aussi pour la première fois de mon existence. Le S&P a signé son premier record depuis le 2 juin. Le Nasdaq a repris plus de 2 000 points en 4 séances, le plus gros gain sur 4 jours de toute son histoire, avec des données qui remontent à 1977. En termes de points, bien sûr, et pas en termes de pourcentage. Et vous savez ce qui a déclenché tout ça? Une phrase, une seule phrase prononcée hier à la télévision américaine par le secrétaire au Trésor. On discute avec les Iraniens et il y a une chance qu'on ait un accord aujourd'hui ou demain. Enfin, déjà, le mec, on sait à peine qui c'est, mais même si lui, il peut faire décaler le marché à cette vitesse, c'est bientôt Melania Trump qu'il va falloir suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est aujourd'hui, peut-être, ou alors demain, ou alors un autre jour, mais un accord de paix arrive. Voilà, c'est exactement ça, ce qui vaut 2 000 points de hausse sur le Nasdaq, les 54 000 sur le Dow Jones et une clôture à 7 747 sur le S&P 500. Ainsi que l'ouverture de porte pour les 8 000 sur le S&P 500. Mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo ce matin. Je la fais cette vidéo parce que pendant que tout le monde célébrait la paix, Reuters a quand même publié une petite dépêche relativement surprenante. Une dépêche qui explique pourquoi cette paix pourrait arriver maintenant et pas il y a 3 mois, il y a 3 semaines ou il y a 2 jours. Et quand vous l'aurez entendu, je vous garantis que vous ne regarderez plus ce rallye de la même façon. C'est quand même du lourd. Si c'est vrai. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le mercredi 5 août 2026. Les records tombent partout dans le monde et tout le monde est content. Et moi, je m'appelle Thomas Veillet. Et pourtant, je vais vous démontrer en 15 minutes qu'on n'a pas vraiment fait la paix hier. C'est parti!
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Bon, déjà, comme tous les matins depuis le mois de février, on commence la journée en vérifiant si le détroit d'Ormuz est ouvert ou s'il est fermé. Hier, il était peut-être bientôt ouvert. Ce matin, si on écoute le gouvernement américain, c'est carrément open bar. Il y a presque des courses de tankers qui sont prévues ce week-end avec Trump qui fera du wakeboard accroché derrière. Et franchement, il faut saluer la performance en 4 jours. Les Américains sont passés de « on va transformer l'Iran en grand parking » à « oui, alors on a un accord, tout va bien ». Et puis finalement, ils sont quand même plutôt sympas, ces gardiens de la révolution, non? 4 jours, il aura suffi de 4 jours. Le pétrole, lui, s'est fait démolir. Le Brent est à 78 $ et des poussières. Le WTI est à 74-75. Je vous épargne les pourcentages parce que c'est indécent. Mais bon, ça fait quand même 14% de baisse depuis les sommets de la semaine dernière. Alors évidemment, le seul truc unique lié au pétrole qui n'a pas bougé d'un millimètre, c'est le prix à la pompe. Mais bon, ça, on s'en fout parce qu'on roule tous en voiture électrique. Enfin, sauf moi. Et moi, comme un con, j'ai fait le plein vendredi. Et pendant que le baril se faisait défenestrer, il y a 2 petites choses qui se sont passées et pas grand monde l'a vraiment relevé. D'abord, à Doha, le porte-parole des affaires étrangères qatari précisait qu'il n'y avait aucune négociation directe entre les 2 pays belligérants. Et Téhéran répétait pour la xème fois en une semaine qu'il ne négociait rien du tout avec personne, nulle part. Donc on achète des actions sur une phrase que l'une des 2 parties dément plus ou moins publiquement et on bat des records historiques là-dessus. Clairement, ça fait du sens. Mais alors attendez, parce qu'il y a un truc beaucoup plus intéressant dans cette histoire de rebond, et c'est pas la géopolitique, c'est plutôt la plomberie. Souvenez-vous, fin juillet, il y a un fonds spéculatif dirigé par un prodige de l'intelligence artificielle, un gamin d'une petite 20aine d'années, qui se fait rattraper par les appels de marge. Et il doit brader l'essentiel de ses positions cotées en bourse à Citadel, en un bloc, d'un coup, pour éviter la faillite. Traduction en français, le gars a carrément remis les clés de son portefeuille. Et depuis ce jour-là précisément, le marché fait que de monter. Alors, tout le monde s'accorde maintenant à dire, bah voilà, c'était le bottom, c'était le fond du marché. Et honnêtement, historiquement, c'est souvent vrai. Il y a toujours un vieil adage dans le métier qui dit que pour faire un vrai point bas, il faut la faillite d'un gros fond, il faut que quelqu'un meure. Bon, pas au sens propre, bien sûr, hein, mais il faut que quelqu'un soit forcé de vendre au pire moment sans avoir le choix parce que le levier ne lui laisse plus le choix. C'est comme ça que les marchés font des bottoms, pas dans l'optimisme, dans la liquidation forcée. Et donc, pendant que le gamin rendait les clés, Ken Griffin, le patron de Citadel, faisait probablement le deal de sa mercredi. Depuis, le marché remonte comme un bouchon de viagère. Si ça vous dit, je peux même vous raconter l'histoire en détail. Je peux vous faire une vidéo rien que là-dessus, rien que pour vous. Alors, si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. Et alors, quand je dis bouchon de liège, hein, il suffit de regarder les chiffres, hein, j'exagère pas, parce qu'ils sont franchement à la limite du raisonnable. Le Nasdaq, plus de 2000 points en 4 séances, record absolu en points sur 4 jours, en pourcentage, ça fait 8,9% du jamais vu depuis avril l'an dernier. C'est-à-dire depuis la pause sur les droits de douane après le fameux Liberation Day. Les semi-conducteurs font plus 6,55 juste sur la séance d'hier. Les 7 magnifiques, eux, ils ont carrément surperformé le S&P de 5 points en 2 séances, ce qui est relativement facile à faire puisque c'est eux qui représentent le S&P, et c'est aussi un record absolu. Microsoft a quand même repris 41% en 6 semaines. 41%. Et on parle de Microsoft, hein, pas d'une boîte qui vend des roulements à billes au fin fond du Kansas. Et puis il y a aussi Palantir qui a explosé de 30% hier soir. Et c'est même pas qu'une histoire américaine, puisque le Russell 2000, ça c'est américain, a battu un record. Mais aussi l'indice mondial qui battait des records. Mais aussi Milan, Francfort, record. Madrid passe les 20 000 points et le CAC 40 dépasse son record du 26 février 2026. Le 26 février. Vous savez ce qui s'est passé le 27 février? Bah, c'était le premier missile tiré sur Téhéran. Donc si on récapitule aujourd'hui, on a 5 mois de guerre, un détroit fermé, une inflation qui a remonté, de l'essence qui a remonté, des stocks de pétrole occidentaux qui sont au plus bas depuis des années, et la bourse française, entre autres, est très exactement revenue à son niveau de la veille du premier missile. Les autres ont même fait mieux, comme si rien ne s'était passé. Le détroit d'Hormuz est censé rouvrir aujourd'hui, et c'est génial, il faut le reconnaître. Sauf qu'il était déjà ouvert avant la guerre. On a fait 5 mois de guerre pour revenir à l'endroit exact où on était, avec l'inflation en plus. Bah bon, c'est une victoire, une nouvelle victoire pour Tonton Donald. Bon, maintenant, on arrive au moment de la vidéo pour lequel je vous ai demandé de rester avec moi. Parce qu'il y a une question que personne, mais personne ne pose, et elle est pourtant relativement évidente. Pourquoi est-ce que maintenant, on trouve un accord? Pourquoi, après 5 mois de guerre, après un accord signé le 17 juin, qui a tenu moins d'un mois, après des frappes, des contre-frappes, des contre-contre-frappes, une histoire de décapitation, il y a encore 48 heures, des déluges de feu promis, pourquoi est-ce que subitement, tout le monde devient raisonnable en 4 jours et on trouve un accord comme ça? Alors, regardons d'abord l'accord en question, parce que ça vaut quand même le détour. Alors, d'après ce qui filtre, comme dirait Coluche, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être conclu. Et ben là, c'est, on s'autorise à penser un arrangement temporaire de 60 jours entre Oman et l'Iran. Le trafic maritime entrerait par une voie nord dans les eaux iraniennes, sortirait par une voie sud dans les eaux omanaises, en coordination avec Téhéran. Pas de péage et un déminage de la voie médiane sous 30 jours. Sur le papier, c'est propre, c'est nickel, ça a presque même l'air raisonnable, voire trop simple. Sauf que, souvenez-vous, hein, les États-Unis et l'Iran ont déjà signé un accord pour ouvrir le détroit le 17 juin. Ce truc a tenu moins d'un mois avant de s'effondrer et de déboucher sur 2 semaines de combat. Et souvenez-vous aussi qu'un navire commercial s'est encore fait attaquer près d'Hormuz mardi pendant que les négociations de paix étaient en cours. On continue à tirer dans tous les sens, hein, histoire de ne pas perdre la main. Alors pourquoi cette précipitation? Eh bien, hier, alors selon Reuters, hein, bien sûr, selon Reuters, l'armée américaine aurait consommé la quasi-totalité de son stock de missiles de précision longue portée. Et CNN a enchaîné. Ils disent que près de 80% des intercepteurs TAD sont partis en fumée. Réaction immédiate de Tonton Donald. Les États-Unis ont bien sûr plus de munitions que n'importe qui dans le monde et bien plus qu'il n'en faut, bien plus. La Maison-Blanche a même confirmé les paroles du président. Ils ont dit qu'il y avait plus qu'assez de munitions, de stock et de tout ce qu'il faut. Alors, écoutez-moi, mon opinion à 2 balles. Hein. Quand un gouvernement doit préciser publiquement qu'il lui reste des balles, c'est en général qu'il n'y en a pas autant que ça. Et là, subitement, l'enthousiasme diplomatique de Washington prend un tout autre relief. On ne fait pas la paix parce qu'on est devenu sage. On fait la paix parce qu'on a vidé l'armoire à jouets. Et ajoutez à ça des élections demi-mandat en novembre et des électeurs qui vont faire le plein le samedi en insultant Trump à haute voix sur toutes les stations-service du pays, le calendrier de la paix n'est pas géopolitique. Il est peut-être électoral et logistique. Et ça, c'est écrit nulle part dans les résumés de marché ce matin. Alors, qui n'est pas dupe dans cette histoire? Eh bien, c'est le marché obligataire, comme toujours. Le 10 ans américain est passé de 4,68 à 4,62, le 2 ans a lâché 6 points de base à 4,20, le Bund allemand est revenu à 3,10 et l'OAT française est à 3,89. Ça va mieux, un peu mieux. Bon, il n'y a pas de quoi se rouler par terre en s'arrosant de grands crus non plus, mais à la limite, on peut s'arroser de Canada Dry, mais pas plus. Oui, parce qu'il faut regarder d'où on vient quand même. Le 10 ans reste très très au-dessus de son niveau d'avant-guerre, contrairement aux actions qui ont déjà tout oublié. Le marché obligataire, lui, il n'a rien oublié du tout. Le marché obligataire ne fête pas la paix. Il constate juste que le baril a baissé de 5 dollars et il rend donc 6 points de base. C'est le comportement d'un type qui a envie d'être votre ami, mais qui n'a pas vraiment confiance en vous. Et c'est surtout là qu'il faut comprendre la vraie chaîne de causalité d'hier, parce que ce matin, tout le monde a écrit « Les actions montent grâce aux résultats et à l'intelligence artificielle ». Non ! Non ! Le baril fait l'inflation fait le 10 ans, et le 10 ans fait la valorisation des actions de croissance. Parce que quand vous valorisez une boîte qui promet des bénéfices en 2031, chaque point de base pèse plus lourd que n'importe quel communiqué trimestriel. Donc, le rallye technologique d'hier, c'est pas vraiment un rallye technologique, c'est un rallye qui est soutenu par le pétrole qui baisse et donc qui va peser sur l'inflation et indirectement sur les taux à moyen long terme. Et le jour où le baril repartira à 90$, on repassera la marche arrière et on nous expliquera très doctement que le marché doute de la monétisation de l'intelligence artificielle. Petite parenthèse, pendant qu'on y est, parce que ça m'énerve quand même, vous allez lire partout ce matin, le Dow Jones a pris 1000 points, comme s'il avait gravi l'Everest en hiver, en string et en talons hauts, avec un sac de pierre sur le dos. 1000 points quand l'indice vaut 10 000, c'est énorme. 1000 points quand l'indice vaut 54 000, c'est à peine le prix de l'apéro de ce soir. Dans l'euphorie, on oublie les mathématiques de base, ça c'est clair. Passons maintenant aux résultats trimestriels, parce qu'il y a eu du très 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 lourd hier soir. Palantir d'abord, on en a parlé déjà un petit peu hier, le titre a fait plus de 29,5% de hausse en une journée à 162,66$. Meilleure performance du S&P évidemment, chiffre d'affaires en hausse de 93%, objectif annuel relevé, et Karp a qualifié son propre trimestre d'irréel. Il a raison. Mais peut-être pas dans le sens où il croit. 30% en une séance sur une boîte de cette taille, c'est plus de la réévaluation des bénéfices, c'est de la panique acheteuse. Des gens qui n'étaient pas dedans et qui n'ont pas supporté de regarder le train partir. Et puis il y a AMD aussi, alors là accrochez-vous, un chiffre d'affaires 11,5 milliards en hausse de 50%, division data center 6,7 milliards en hausse de 107%, prévision au-dessus des attentes, le titre avait pris 7% pendant la séance et il s'est fait défoncer de 9% après la clôture. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous le savez maintenant, hein, battre le consensus ne suffit plus, il faut battre le consensus, dépasser ses propres objectifs, promettre la lune, livrer des fusées, guérir l'obésité et signer un accord de paix avec l'Iran au minimum. Mais le détail dont personne ne parlera ce matin, il est ailleurs. Meta et OpenAI ont reçu de la part d'AMD des bons de souscription portant sur 160 millions d'actions, acquis au fur et à mesure des livraisons de serveurs. Si tout se passe comme prévu, ça fait environ 16% du capital. Donc, si on traduit tout ça, ça veut dire qu'AMD est en train de payer ses deux plus gros clients en actions pour qu'ils acceptent d'acheter des serveurs. Et pendant ce temps-là, Nvidia fait exactement l'inverse. Nvidia, eux, ils prennent des participations dans leurs clients. Voilà donc la différence entre le numéro 1 du marché et le numéro 2. Résumé en une seule ligne de bilan. Le numéro 1 se fait payer et le numéro 2 paye. Et le marché continue de les valoriser comme s'ils vendaient la même chose. Et puis, alors, hier soir, il y avait SpaceX. SpaceX qui publiait ses tout premiers résultats depuis son introduction en bourse. Et le spectacle valait le détour. Les chiffres d'affaires 7,81 milliards en hausse de 92%. Perte nette réduite de moitié. Starlink qui double ses abonnés à 12 millions. La division IA en hausse de 247%. Ça cartonne. Objectivement, ça cartonne. Bon, sauf que la société a investi 18,4 milliards sur le trimestre pour 7,8 milliards de recettes. 2,50 $ dépensés pour 1 $ encaissé. Et aucune prévision financière fournie, ce qui est toujours assez courageux quand on vient de lever 86 milliards. Et puis, Musk a pris le micro. 100 milliards de revenus prévus récurrents d'ici fin 2026, sachant que le consensus modélisait 72 milliards pour 2027, 1000 milliards de revenus annuels dès 2029, sachant que le consensus modélise environ un tiers de ça pour la fin de la décennie. Et cerise sur la fusée, des data centers dans l'espace dès 2027 avec des puces Nvidia dedans. Tout ça en orbite. Réaction du marché, Le titre avait pris 9,5% dans la séance, il en a rendu 8 après la clôture et il se traite ce matin toujours autour des 125 $. Capitalisation boursière 1650 milliards contre 2900 milliards au plus haut le 16 juin. Plus de 1000 milliards sont partis en fumée en 6 semaines. Et le vrai signal est là, les promesses de Musk ont visiblement moins d'impact qu'il fut d'un temps. En même temps, s'il est aussi précis qu'avec les robots taxis, on peut comprendre. Et pendant que tout le monde regardait les puces, l'espace et le détroit d'Hormuz, la meilleure publication de la journée est venue d'un fabricant de pelleteuses. Caterpillar a passé pour la première fois de son histoire les 20 milliards de chiffre d'affaires trimestriel, bénéfice ajusté à 8,17 $ contre 6,19 attendu, un ratage total pour la communauté des analystes, marge opérationnelle à 21,9% contre 17,6% un an plus tôt, carnet de commandes record, le titre prenait 5,6% hier soir. Mais si vous lisez les petits caractères en bas de page, ce que personne ne lit, une partie du bénéfice vient d'un remboursement de droits de douane. C'est joli, bien sûr, mais ça ne se reproduit pas tous les ans. Et une autre partie vient d'un gonflement des stocks chez les concessionnaires, c'est-à-dire de la marchandise poussée hors des tuyaux, mais pas encore vendue au client final. Et surtout, le détail, la vraie surprise vient de la division construction en hausse de 35%. Pas de la division énergie, celle qui vend des turbines aux data centers, qui ne progresse que de 17%. Traduction pour ceux qui achètent Caterpillar comme un titre d'infrastructure IA, le titre a battu grâce aux pelleteuses. Excellente nouvelle pour l'économie américaine, nouvelle beaucoup moins vendeuse pour le récit du moment sur l'intelligence artificielle. Un mot sur l'emploi avant de se quitter, parce que c'est le vrai rendez-vous de la semaine. Les offres d'emploi américaines sont ressorties à 7,359 millions contre 7,454 millions attendus, avec le mois précédent révisé en baisse, embauche stable, démission stable, licenciement stable, un marché du travail où plus rien ne bouge. C'est un jeu de chaise musicale où plus personne ne se lève parce que personne n'ose, de peur de ne jamais retrouver une chaise. Et vendredi, on ouvrira l'enveloppe, création d'emplois du mois de juillet et taux de chômage. Ça, ce sera le vrai juge de paix de la semaine avec les chiffres bullshit du BLS. On a donc battu des records partout dans le monde sur une phrase prononcée à la télévision, démentie par le Qatar et démentie par l'Iran pour la troisième fois en une semaine. On a fait un accord temporaire, ou on est en train de faire un accord temporaire de 60 jours, alors que le précédent avait tenu moins de 30, et on l'a fait très probablement parce qu'on n'a plus autant de missiles que ça. Mais c'est pas grave, parce qu'on est au plus haut historique, et finalement, il n'y a que ça qui compte. Oui, parce qu'on a fini par comprendre comment fonctionne ce marché. Il baisse très peu sur les mauvaises nouvelles, et il cartonne comme un fou sur les bonnes. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif de bovin. Et c'est exactement pour ça que les bourses mondiales montent depuis toujours. Aujourd'hui, en termes de publication, on aura Disney, Uber, Eli Lilly, Novo Nordisk et SanDisk. Les futurs sont en hausse, le pétrole est en baisse et on attend de voir si l'accord très très proche voit vraiment le jour définitivement. Si cette vidéo vous a plu, ben abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de voir qu'on va en direction des 200 000 followers. Lentement, d'accord, mais on y va. Et puis autrement, on like, on partage et on commente. Passez une excellente journée et on se revoit demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles déclarations passionnantes de Donald Trump. Allez, à demain. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.